Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Il faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Certains se souviendront peut-être de ce mois d'août 2012, au cours duquel un homme d'une cinquantaine d'années chercha à s'immoler avec du white spirit dans les locaux de la caisse d'allocation familiale à Mantes-la-Jolie. L'homme n'avait pas répondu à temps au questionnaire demandé par l'administration et il avait oublié de remplir les bons formulaires. Son RSA était suspendu depuis plus de 3 mois dans l'attente de pièces justificatives complémentaires. Il n'avait plus de quoi se nourrir. Peut-être qu'à l'image de Thomas Thévenoud, ex-secrétaire d'État chargé du commerce extérieur, du développement, du tourisme et des Français de l'étranger, l'homme souffrait-il lui aussi de phobie administrative ? Il est plus vraisemblable toutefois qu'il souffrait d'une folie administrative qui lui coupa les vivres pendant des semaines. Chacun de nous a au moins en stock une histoire plus ou moins dramatique sur l'absurdité de l'administration. Certaines, comme cette femme handicapée à qui Pôle emploi propose régulièrement un travail de manutentionnaire, pourraient prêter à sourire. D'autres privent les citoyens de leurs droits et les laissent parfois dans des situations dramatiques ou dangereuses. Bien souvent, la lenteur des procédures, leur absurdité ou leurs complications extrêmes permettent à l'État de réaliser des économies colossales, de rayer des demandeurs d'emploi des statistiques ou encore de décourager les postulants. Près de la moitié des bénéficiaires potentiels du revenu de solidarité active, le RSA, ne le demandent même pas, souvent par méconnaissance ou parce que les démarches sont trop compliquées. L'État fait ainsi 5 milliards d'économies. De là à penser que cette folie administrative est tout à fait rationnelle et cynique, il n'y a qu'un pas que je me garderai bien de franchir. 3 histoires donc en absurdie aujourd'hui dans l'administration française racontée par Olivier Minot jusqu'à 14h dans Les Pieds sur Terre et réalisée par Annabelle Brouard.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Mettre ma carte vitale à jour, moi j'ai déménagé.
Il n'y a pas longtemps.
Oui, vous habitez où ?
J'ai déménagé.
Vous avez une pièce d'identité ?
Ouais. J'ai bien fait mes changements d'adresse auprès de Radio France, de Pôle emploi, de mes assurances de responsabilité civile, du Trésor public, de voiture, d'habitation, de père de famille.
Bonjour monsieur.
J'ai prévenu mon fournisseur d'accès à internet, mon opérateur de mobile, les congés spectacles, ma caisse de retraite, ma banque.
Vous voulez une attestation ? Pour la remettre à jour, il n'y en a pas besoin. Mais pour faire une attestation, il faut un code. Donc,
j'ai changé ma carte grise, mon abonnement au journal CQFD, ma mutuelle. J'ai même réussi à actualiser ma carte vitale en tapant 3 fois le code. Tout s'est bien passé. Ouf. Pour Jean, jeune père au foyer que je rencontre en banlieue parisienne, le changement de situation n'a pas été aussi facile.
Bonjour. Bonjour. Olivier.
Oui, Jean. Entrez.
Vive autant comme musicien et inscrit jusque-là sur la carte vitale de son père.
Oui, mon chat.
Il doit en décembre 2010 faire une demande de couverture médicale universelle, CMU, à son nom.
Je m'y prends 2 semaines à l'avance et j'appelle la CPAM par téléphone. La personne au téléphone me dit qu'elle s'en occupera, qu'elle m'enverra les papiers qu'il faut par la poste et que je les recevrai au bout de 3 mois. Des papiers qui me permettront d'être attaché à la CPAM de Paris. Donc je ne m'en occupe pas plus que ça à partir de ce moment-là.
5 mois plus tard, Jean n'a toujours pas de nouvelles.
Je décide d'y aller de demander sur place parce que j'avais toujours rien reçu. Et alors là, la dame au guichet, elle me dit que c'était pas la démarche à suivre. Cette fois, on remplit le dossier avec elle, ça se passe bien. Et donc le dossier est en 2 parties. Il y a un dossier pour remplir, pour obtenir la CMU, et l'autre pour obtenir la CMU complémentaire. Donc moi, je demandais pas la CMU complémentaire, puisque j'y avais pas le droit, donc je la demandais pas. On remplit le dossier, elle le met dans une enveloppe, et elle me dit « dans 3 mois, je serai couvert ».
3 mois plus tard, Jean reçoit un courrier de la CPAM.
Je reçois dans ma boîte aux lettres l'intégralité de toutes les pièces justificatives que j'avais remplies, envoyées, et le dossier. La lettre qui accompagne ce dossier qui m'est renvoyé me précise que je n'ai pas à joindre le dossier de CMU complémentaire. Déjà, je me dis que je vais vérifier. Au début, je crois vraiment que je suis couvert désormais et je me pose même pas la question. Mais après, ma copine me dit effectivement qu'il faudrait mieux que je vérifie. Et elle a eu bien raison parce que j'étais pas couvert. Je vais au guichet, aux machines. Et avec ma carte vitale, je demande une attestation de droit. Et j'en obtiens une, donc qui me précise, vous êtes couvert, etc. Je ressors de la CPM physiquement, je m'en vais. Et en chemin, je la regarde par acquis de conscience. Et je vois que l'attestation que je reçois et que j'ai eue avec ma carte, en fait, est au nom de mon père. Je retourne à la CPM. Une dame à l'accueil, je tente de lui expliquer mon cas en disant que j'avais renvoyé, que je voulais savoir si j'étais couvert. Et j'ai eu beaucoup de mal à obtenir cette réponse, en fait. Elle a fini par me dire que non, j'étais pas couvert.
La semaine suivante, Jean retourne au guichet avec cette fois-ci toutes les pièces nécessaires à son dossier de demande de CMU.
L'agent, le premier réflexe, il me dit que ma carte n'est pas à jour. Il me demande de la restituer pour qu'il puisse la scotcher dans un dossier. Enfin, donc je lui demande, ah bon, et donc on peut avoir accès à des agents donc sans carte vitale et sans ticket? Et là, il me répond, bah non. Un petit silence, et puis après, elle fait, ah oui, donc je vais vous rendre votre carte vitale. Et là, elle la déscotche et elle me la restitue. On a repris mon dossier entièrement et là, on a noté en lettres capitales que je n'étais pas demandeur de la CMU complémentaire. Et on a même rajouté que je demandais uniquement la CMU de base. C'est l'agent qui m'a conseillé de rajouter cette phrase en capitale. Et donc là, je repars quand même confiant, parce que là, on avait bien écrit en lettres capitales, ça prenait pas mal de place et c'était près de la signature, donc il n'y avait pas moyen de passer à côté. Donc là, je repars confiant.
4 mois plus tard, Jean reçoit un nouveau courrier de la CPAM dans sa boîte aux lettres.
Le courrier, quand je le vois arriver, déjà, il est quand même très, très volumineux, donc j'ai un petit peu des sueurs froides. On me dit quasiment la même chose, mot pour mot, que celle qu'on m'avait envoyée avec mon premier retour de dossier. C'est-à-dire, vous n'avez pas joint le dossier dûment complété de la CMU complémentaire, que je ne demandais pas. Toujours pas. Je retourne de nouveau à un guichet. C'est à ce moment-là où la personne, en voyant le dossier qui m'est retourné, elle le feuillette et elle me dit, de toute façon, dossier de CMU complémentaire ou pas, vous n'avez pas assemblé le pire des pièces qu'il fallait, en fait. Loin de me démoraliser, cette réponse, finalement, ça me rassure, parce que là, j'ai l'impression d'avoir affaire à quelqu'un qui sait de quoi elle parle et qui a eu accès à cette liste mystérieuse des pièces à joindre. Donc, voilà, je suis plutôt rassuré. Là, je me dis, c'est une des dernières fois que je serai amené à aller à la CPM, au moins pour avoir la CMU pendant un an, parce que faut renouveler l'opération tous les ans. Donc, je suis presque ému, je prends des photos de la CPM. Et voilà, donc là, tout est bon. Donc, bien sûr, vu qu'il y a des dates à changer, puisque j'ai commencé à faire les démarches et à remplir les papiers, et là, il y a plus d'un an qui s'est écoulé, donc on est obligé de passer du TIPEX et d'annoter, de refaire, de rayer. En tout cas, le dossier, et on voit bien que c'est une œuvre collective, il y a énormément de signatures, de choses rayées, de TIPEX, etc. C'est un vrai travail sur plus d'un an. Et une fois que le dossier est complet, elle me dit, cette fois c'est réglé, et elle me dit de l'envoyer fin septembre, parce que les droits prennent effet le 1er octobre, et pas avant, parce que là, le dossier, on l'avait fini en fait en août. Et pourquoi pas avant? Parce que s'il arrive trop tôt, ceux qui le recevront pourront penser que c'est une demande de droit pour l'année écoulée, en fait, bien que les dates soient précisées. Puis après, elle a un temps de silence, et on la voit pensive, et puis elle me dit, non, finalement, envoyez-le qu'à partir d'octobre, comme ça, là, il n'y a pas de confusion possible.
Le 8 octobre 2012, 23 mois après l'expiration de sa couverture sociale, Jean reçoit son dossier d'admission à la CMU.
J'étais vraiment l'impression d'arriver au bout d'une quête. Le dossier que je reçois, en fait, précise que je n'aurai aucune cotisation à payer pour la période qui s'étend du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2012, c'est-à-dire pour une période qui n'existe pas.
Pendant ces 23 mois de démarche, Jean n'a pas été couvert par la Sécurité sociale. Je me demande combien l'État a économisé avec lui.
Ce qui m'a un peu énervé, bon là c'est aussi moi que ça agace, c'est que le courrier mettait bien en garde que la loi rend passible d'amende ou d'emprisonnement quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration. De toute façon, celui qui demande l'accès au droit, il est suspect.
Je lis que chaque année, ce sont 700 millions d'euros qui ne sont pas distribués aux usagers ayant droit à la CMU. Je me demande comment on pourrait qualifier cette non-distribution.
Frauder, c'est voler. Et celui qui fraude sera sanctionné. La fraude, on a tous à y perdre.
Ceci est un message du gouvernement, du réseau URSSAF, de la Sécurité sociale.
Maxime est un jeune dynamique qui fait du business dans la musique et qui va être accusé d'avoir fraudé l'URSSAF. Son boulot consiste à dénicher des groupes de musique, les éditer et les placer pour qu'ils passent à la radio et qu'ils servent d'illustration dans les émissions de télé.
Ils n'ont jamais été remboursés.
Il bénéficie ensuite des droits d'auteur via la SACEM.
C'est-à-dire qu'en fait, tu regardes ton compte, t'as 1000 euros qui partent.
Il vient prendre un café chez moi pour me raconter ses embrouilles avec plusieurs administrations. Et pour rien vous cacher, je crois que Maxime, il a pas de chance.
Voilà, donc on a fait un dépôt de bilan.
Tout commence quand la boîte pour laquelle il travaille est placée en liquidation.
De mon catalogue à moi,
Maxime essaie alors de racheter le catalogue de ses groupes auprès du mandataire judiciaire.
Donc moi, à ce moment-là, mon associé me contacte et me dit « Tu peux racheter ce catalogue, remonter la société, et puis éventuellement, je te donnerai un coup de main sur du réseau et des choses comme ça, mais je te propose de racheter le catalogue. De toute façon, il n'y a pas d'acheteur. » Et le mandataire judiciaire avait placé un prix à 100 euros. Donc du coup, je passe un coup de fil au mandataire judiciaire qui me dit tout de suite « Il faut me faire un mail. Je ne peux pas vous parler par téléphone. Vous me faites un mail avec votre proposition finale. » Donc du coup, je lui écris un mail où je lui explique que je souhaite racheter le catalogue. Il me demande de lui faire une proposition. Je lui demande un ordre de prix pour la proposition. Il me dit « C'est à vous de vous débrouiller. » Et je lui envoie du coup 100 euros en proposition. Il me répond quelque chose comme « Monsieur, si c'est pour vous moquer de moi, merci de ne plus me contacter, machin. » Il bloque tout. Donc je lui fais un mail où je lui dis « Écoutez, je ne connais pas les us et coutumes de la profession. Je pense que 100 euros pour le catalogue, c'est une somme correcte. Donc je lui demande de m'expliquer. » Il m'a répondu quelque chose comme « Quand on ne connaît pas les lois de la loi, justement, les règles de la loi, on ne se permet pas de contacter un mandataire judiciaire. » Donc du coup, je prends conseil auprès d'un avocat qui explique qu'en fait, toutes les sommes inférieures à 1000 euros, les mandataires judiciaires considèrent que ça n'existe pas. Donc j'emprunte 1000 euros parce qu'à cette époque-là, j'étais complètement fauché. Voilà, je me retrouvais au chômage. En plus, avec un dossier à la CAF qui passait pas, donc j'avais pas le droit à la CAF parce que j'étais en création d'entreprise. J'avais bouffé tout mon chômage et du coup, je me retrouvais sans revenu. J'avais ni RSA, ni rien. Donc zéro revenu, pas de revenu de RSA parce que l'administration me bloquait en me disant « Vous avez déjà des revenus avec votre boîte ?» Et pas de revenus avec ma société parce que le mandataire judiciaire bloquait la vente du catalogue. Ça faisait déjà 3 mois que ça durait l'histoire. Je commence à m'exciter un peu, je lui fais un nouveau mail. Et moi je lui disais « Mais moi c'est 5 ans de ma vie ce catalogue, même si j'avais pas les droits. » Et j'essaie de l'apitoyer un petit peu en disant « J'ai zéro euro pour vivre, je peux rien faire. Voilà, j'ai aucun moyen d'arranger les choses. » Il m'a dit « Je suis mandataire judiciaire, je suis pas psychologue. » Donc j'ai attendu, au bout de 4 mois, je lui fais une dernière proposition par courrier recommandé, je lui propose 1000 euros. Et il me répond à un mail, et c'était juste marqué dans le mail 2000. 2000 sans monsieur, sans bonjour, sans rien. Je lui réponds, je lui dis, bah écoutez, 2000 euros, c'est beaucoup trop pour moi, j'ai déjà emprunté 1000 euros, je peux pas faire plus. Et il me dit, tant pis pour vous. Et au bout d'un mois, je reçois un courrier du tribunal de commerce qui me dit « Cher monsieur, nous avons l'honneur de vous annoncer que le catalogue, votre offre a été acceptée et que du coup, vous êtes propriétaire du catalogue. » Tout content, je contacte la SACEM et je leur dis « Bah normalement, voilà, je suis éditeur. » Ils me disent « Ah, mais on vous a pas dit, en fait, la procédure est pas bonne parce que en fait, on peut pas devenir éditeur de cette façon. Il vous faut un courrier du mandataire judiciaire qui dit qu'il vous a bien vendu le catalogue et qui vous fait une lettre en disant que la vente a été honnête, que vous avez fait une proposition, qu'elle a demandé au mandataire judiciaire de vous faire une lettre, un courrier. Donc je contacte le mandataire judiciaire, impossible à avoir en direct, toujours tomber sur sa secrétaire ou lui faire un mail. Je lui fais un mail, comme d'habitude, il répond 7 jours après, il me dit la somme des 1000 euros incluait la vente du catalogue, pas un courrier supplémentaire. J'appelle le service juridique de la SACEM, ils me disent bah vous auriez dû passer avec un Parisien. Parce qu'apparemment, les Lyonnais ne sont pas du tout au fait de la procédure SACEM. Et donc, la SACEM envoie ça au mandataire judiciaire qui répond « Ce n'est pas de mon ressort ». Et le tribunal de commerce contacte mon avocat en lui disant « Le chèque a été encaissé en perso, enfin, a été fait à l'ordre du mandataire judiciaire et pas de son cabinet. Donc, a priori, on ne peut pas émettre les pièces que vous souhaitez avoir. Impossible de prouver que la vente avait été faite. » Le dépôt de la boîte a été fait en septembre 2012. J'ai créé la SARL en janvier 2013 et le catalogue m'a été attribué en septembre 2013, pratiquement 9 mois après la première proposition de rachat. Pendant cette période, d'une part, j'étais plus suivi par le Pôle emploi. Donc
il aura donc fallu un an à Maxime pour récupérer son catalogue.
En plus, à cette époque-là, j'étais relogé par la ville de Lyon.
Régulariser sa situation auprès de la SACEM.
J'étais aussi noyé sous les conventions de relogement, avec tous les problèmes de travaux, parce que quand je suis arrivé dans mon appartement, l'électricité, le gaz, rien ne marchait.
Et avoir un peu d'argent de droit d'auteur sur son compte professionnel pour reprendre normalement son activité.
Plus tous les soucis qu'on peut avoir avec une banque.
Il peut enfin souffler.
J'avais créé mon compte en banque, finalement, il a disparu de la banque.
Je lui resserre un café.
je reçois un courrier de l'URSSAF qui me réclame à l'époque 4 100 €. Donc je me dis 4 100 €, c'est un peu beaucoup pour une société qui a un peu plus de 6 mois pour une activité néante, parce que j'avais rien facturé pendant des semaines n'ayant pas d'activité, et je vois cette somme de 4 100 €. Je m'affole un petit peu, je les appelle, ils m'expliquent qu'en fait apparemment j'ai des employés que je déclare pas, et du coup en fait c'est les charges sociales liées à ces employés là que j'ai pas déclaré. Donc je leur dis, mais j'ai jamais eu d'employé, j'emploie personne, comment on fait? Donc ils me disent, bah vous faites un fax à l'URSSAF, vous prenez votre dernier bulletin de déclaration, vous le barrez et vous dites que vous n'avez pas d'employé, que ça ne vous concerne pas. Et je fais le fax, voilà, avec un peu d'expérience, je double ça d'une lettre recommandée pour être sûr que j'ai pas de soucis. Et voilà, je me dis, c'est bon, c'est réglé. Et quelques jours plus tard, alors que j'étais absent, j'ai un coup de fil de mon colocataire qui me dit, l'URSSAF a frappé à la porte, il y avait des serruriers avec des pinces pour ouvrir la serrure. Et ils avaient listé tout mon matériel et ils m'indiquaient que je leur devais 4 900 € et que j'avais 15 jours pour payer. Du coup, j'appelle l'huissier de justice et l'huissier me dit, bah nous, on n'a pas eu de contre-ordre de l'URSSAF, donc quoi qu'il arrive, on va continuer de faire augmenter les frais d'huissier jusqu'à ce que vous payiez. Donc je leur dis, c'est pas possible. Ils me disent, ah oui, puis en plus, vous devez maintenant 5 800. Et ils avaient rajouté 800 € d'intervention sur site avec les serruriers, qui était une somme complètement hallucinante, quoi. Enfin, c'était 3 ou 4 fois plus que ce que j'avais investi dans ma société, une petite SARL qui faisait, qui avait même pas fait 1 000 € de chiffre d'affaires dans l'année. Ils m'ont dit, c'est normal, en fait. Ils m'ont dit, on a plein de cas comme ça, où en fait, l'URSSAF oublie complètement d'avertir les huissiers, et puis les huissiers continuent à ponctionner. Et dans le doute, un matin, je me réveille, je me dis, je vais quand même vérifier mon compte pro. Et en fait, sur mon compte pro, je vois la somme débitée de 1 600 € qu'avait débité l'huissier directement. Voilà. Et en fait, à force de courrier recommandé, j'ai réussi à faire en sorte que l'URSSAF contacte l'huissier et réussisse à annuler la procédure. Et par contre, après avoir pris des renseignements avec mon avocat, on m'a dit que très rarement, enfin en tout cas, les huissiers ne remboursaient pas la somme parce qu'ils estimaient qu'ils avaient fait leur travail. Et rarement, l'URSSAF affirmait qu'ils avaient tort. Donc en gros, cette somme de 1 600 €, c'était tant pis pour moi.
France Culture, les pieds sur terre.
Et maintenant, ça va ?
Maintenant, ça va. Il faut savoir quand même qu'une fois que les huissiers m'ont ponctionné 1 600 €, j'ai quand même fini par avoir un courrier de l'URSSAF qui m'ont indiqué que je leur devais 0 €, mais que je n'avais pas réglé cette somme. Et du coup, là, je ne l'ai pas payé pour l'instant, mais je crois qu'ils m'ont mis une amende qui ressemble à quelque chose comme 400 ou 500 €. Et donc là, j'en suis à devoir quelque chose comme 400 € à l'URSSAF de pénalité de retard pour cette somme de 0 € que je suis censé payer. Alors je me suis dit, je vais leur faire un chèque de 0 €. Mais en fait, du coup, ayant perdu tout mon fric à cause des huissiers et la banque ayant supprimé mon compte en banque quand ils ont vu qu'il y avait ces problèmes-là, bah en fait, mon chéquier est devenu obsolète. J'ai même pas pu leur faire un chèque.
Nous devons obtenir le laissez-passer A38.
Adressez-vous au guichet 1, couloir de gauche, dernière porte à droite.
Que voulez-vous ?
Le laissez-passer A38.
Vous avez le formulaire bleu ?
Le formulaire bleu ? Non.
Alors comment voulez-vous obtenir le laissez-passer A38 ?
Et où trouverai-je le formulaire bleu ?
Guichet 1, partie déjeuner. Et vous pouvez vous adresser au guichet 35 ?
Ce formulaire vous permettra d'obtenir le formulaire rose.
Le formulaire rose ?
Il est nécessaire pour l'obtention du laissez-passer A38. Guichet 12, deuxième étage, escalier B, village.
Et après, me marier, je devais partir.
Daria est russe et travaille à Saint-Pétersbourg. Christophe est belge et travaille en France. Ils se sont rencontrés pendant leurs études à Florence, en Italie.
Ça a été un peu le coup de foudre, donc voilà. Et
tous les deux sont universitaires et chercheurs, je les retrouve à Lyon.
Et donc du coup, on a dit, bon, ben voilà, on arrête le cinéma et on essaye de vivre ensemble, quoi qu'il arrive.
Oui, parce que pour pouvoir vivre ensemble, alors qu'il est citoyen de l'espace Schengen et qu'elle est citoyenne de la Fédération de Russie, c'est à Lyon qu'il décide de se marier.
Quand on est allé à la mairie, on s'est un peu fait avoir la première fois, c'est-à-dire qu'on s'est dit, ah ben c'est facile, il faut un certificat de naissance, il faut des passeports. Et on n'a pas vraiment tiqué sur ce document, certificat de coutume, célibat. On a pensé que le certificat de divorce, ça ferait l'affaire. Et tout d'un coup, on retourne une deuxième fois avec certaines des pièces qu'on avait réussi à réunir et ils nous font « Ah mais non, ça va pas du tout ça ». D'abord, ils commencent à expliquer qu'en fait, ils comprennent pas comment fonctionne le passeport russe. Parce que le passeport russe a un fonctionnement assez spécial qu'on nous on connaît pas ici, c'est-à-dire qu'à chaque fois que les Russes changent d'état civil, c'est mis dans leur passeport. Donc quand on est divorcé, ben c'est mis divorcé dans le passeport. Ça veut donc dire qu'elle elle n'est pas remariée, parce que s'il avait été remarié, il aurait marqué marié dans le passeport. Bref, on a beau leur expliquer ça, alors ils commencent à dire oui, mais nous, le cyrillique, vous comprenez bien, on ne comprend pas, hein, le cyrillique et tout. Et bon, là, on garde son calme. Et donc, il y a cette histoire de certificat de coutume. Et bon, ben, moi, je suis un juriste à la base et je n'avais jamais entendu parler de ça. Je trouvais ça même un peu vieux jeu, obsolète comme expression. Et donc, c'est un certificat magique, en fait, qui prouve trois choses, qui prouve le célibat, qui prouve la capacité matrimoniale et qui prouve que le droit russe et le droit français s'accordent l'un avec l'autre et que Daria peut se marier. Pour pouvoir avoir ce document, on a téléphoné plusieurs fois à l'ambassade de Russie à Paris. Alors là on se retrouve en fait deux mentalités bureaucrates comme ça. Et on a essayé de se faire expliquer la procédure. Pas moyen. Jusqu'à ce qu'à un certain moment, on tombe sur quelqu'un qui nous dit « Mais il y a une version russe du site. Et les Russes, donc votre future épouse, doit aller sur la version russe du site et s'enregistrer. » Et là, eh ben, elle s'enregistre. Et pendant un mois et demi, quasiment deux mois, on est sur une liste virtuelle. Enfin, on doit mettre à jour sa position chaque jour dans la liste, sans savoir quand est-ce qu'on aura un rendez-vous, si on aura un rendez-vous, quels papiers sont vraiment nécessaires pour amener au rendez-vous. Rien. On ne sait rien.
Chaque matin, je dois ouvrir mes emails et après aller sur le site d'ambassade de la Russie et rénover ma position dans cette liste. C'était comme ça. Et si tu oublies, tu perds ton droit d'être sur la liste et tout ça.
Il n'y a pas de possibilité de délégation. Donc en fait, ça voulait dire que le jour où tout d'un coup, eux allaient arrêter une date et proposer des dates, puisque c'est ça le but de cette liste, eh bien, la personne doit venir FISA
à Paris
pour pouvoir obtenir le certificat, ce fameux certificat de coutume.
Je dois porter quelques documents pour rendez-vous pour avoir ce certificat de coutume. Et je trouve que je dois porter aussi le certificat de mariage. Mais je dis, mais c'est impossible parce que je suis divorcée. Et quand tu divorces, en fait, tu donnes ton certificat de mariage. Et alors, je viens et je dis, mais désolée, madame, c'était pas vraiment clair. Aucun m'a dit qu'en fait, j'ai besoin de cet certificat de mariage. Je ne pouvais pas. Maintenant, je suis en France. Qu'est-ce que je fais? Je dois aller en Russie et avoir un autre rendez-vous.
Mais en fait, il faut se rendre compte que là, on parle seulement d'un document. Et que ce document, pour nous, c'était une angoisse perpétuelle parce qu'en fait, on ne savait pas vraiment quand est-ce qu'on allait l'obtenir. Et c'était le document clé pour pouvoir soumettre le dossier à la mairie, pour pouvoir se marier. Après, il y a eu toute une série de problèmes liés à d'autres certificats, comme le certificat de naissance, où la mairie, ici, a voulu obtenir des traductions. Mais alors, des traductions avec apostille. Alors là, on découvre aussi toute le jargon et ils nous ont expliqué à la commune ce que c'était une apostille, mais moi je le savais, mais en même temps, c'était pas clair de quel type d'apostille ils voulaient. Et finalement,
c'est quoi alors l'apostille ?
L'apostille, c'est un cachet qui authentifie que le document émis par l'administration a été émis par un fonctionnaire compétent. Donc on est dans une espèce de méta-certification. En fait.
Et ça veut dire que, par exemple, je suis née à l'Union soviétique, hein, et j'ai un acte de naissance, un certificat de naissance vieux, on peut dire. La Fédération russe ne pouvait pas mettre l'apostille sur cet vieux document de l'Union soviétique. Et ça veut dire que je devais, en fait, aller à Pervouralsk, dans l'Ural, où je suis née, pour avoir... un copie de l'acte de naissance, et sur cette copie, il peut faire un apostille.
L'absurdité, quand même, c'est que l'Oural, c'est pour vous donner une idée, c'est 30 heures de train de Saint-Pétersbourg. 30 heures de train. Donc, si Daria avait dû le faire elle-même, ça aurait été. Enfin, on ne serait toujours pas mariés, c'est très simple. Là, en fait, maintenant, on est mariés, c'est chouette parce qu'on s'aime, mais ça va être chouette aussi parce que ça va permettre à Daria de rester notamment sur l'espace Schengen. Simplement, pour pouvoir rester sur l'espace Schengen, elle a besoin d'un visa longue durée. Et pour obtenir un visa à longue durée, il faut prouver qu'on a une relation stable et durable.
Et moi, je peux rentrer en Europe juste pour, avec visa séjour court, et ça dure juste 3 mois. Ça veut dire que je ne peux pas venir habiter avec mon mec et rester ici. Je dois partir après 3 mois. Et après, pour demander le visa, je dois montrer qu'on a habité ensemble pendant 6 mois. Comment je le fais? C'est... Et c'est aussi, pour nous, c'est vraiment la chance que, en fait, on part aux États-Unis, on va vivre aux États-Unis ensemble. Et si on ne partait pas pour aux États-Unis, ça veut dire que je devais partir de la France. Rester en Russie toute seule après être mariée avec un citoyen français.
Quand une Russe et un Belge se marient en France, pour pouvoir vivre ensemble légalement, il faut qu'ils migrent aux États-Unis.
Daria a obtenu ce postdoc à Harvard, hein, célébrissime institution académique, qui sont encore très vieux jeux. Et donc, en tant qu'époux, ils veulent bien m'inviter. Donc, me permet d'obtenir un visa J2, ça s'appelle. Mm-hmm. C'est un type de visa qui me permet de travailler, en fait, sur le territoire américain. Voilà.
Daria et Christophe sont entourés. Ils sont chercheurs. Voilà. Elle vient d'obtenir un poste à la prestigieuse université d'Harvard. Lui est ancien juriste et connaît donc bien le fonctionnement du droit. Du coup, je me dis qu'ils ont quand même de la chance, comparé à des couples moins privilégiés que j'ai pu rencontrer dans d'autres reportages, dans lesquels les histoires étaient plus dramatiques que kafkaïennes.
Encore, c'était Les Pieds sur Terre avec Kafka et moi, 3 histoires en absurdie, signé Olivier Minot et réalisé par Annabelle Brouard. Merci à Jean-Maxime, Daria, Christophe, à Alice Médig, à Axel Burdi et à Julien Dupont. Cette émission a été diffusée pour la première fois le 15 septembre 2014. Sandrine Chaperon était déjà l'attachée de production des Pieds sur Terre. Merci également à François Connac qui s'est occupé de cette rediffusion.